Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 29 mars 2017. Christophe Rollin au micro, émission numéro 127. Philippe Forstulli est avec nous, Gérald aussi. Isa, non, pas d'Isa aujourd'hui, mais nous gagnons un observateur, une observatrice, Nathalie, à qui nous faisons coucou. Enfin voilà. L'émission se propose aujourd'hui de parler de Philippe Forstulli. Qui est-il? Et ça va être très simple. La question va être vite réglée avec une première écoute. Un univers musical un peu particulier. Je l'ai qualifié sur le blog, je crois, de poète. Poète à l'univers peu commun. Enfin, un univers poétique et peu commun. Enfin bref, les mots, cessons. Écoutons une première chanson qui vient de l'album J'ai mangé le nom, en revanche, j'ai le titre de la chanson en tête, Asmina. Nous écoutons ce premier titre et puis nous continuons comme d'habitude, comme tous les mercredis, jusqu'à 15h. Vous nous écoutez sur Radio Canu, c'est le 102.2 de la bande FM, ou bien vous le faites aussi sur internet, radiocanu.org.
De mon bel émoi. entre ma belle et moi reste un arc-en-ciel. Toi, Jasmine et Ni, nous reverrons-nous d'ici le paradis. J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu, mon petit amour? J'étais amoureux, je le suis toujours. Où es-tu?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2. Nous recevons aujourd'hui Philippe Forcioli. Bonjour Christophe. Isa n'est pas là dans les studios, mais nous avons une observatrice.
On le salue.
J'espère qu'il nous écoute en direct.
Et nous avons également donc Nathalie, nous la resaluons. Très bien. Radio Dragon, on en parlera peut-être sur le blog, on indiquera la chose. Et surtout, nous avons en face de nous, enfin moi j'ai en face de moi, Gérald, qui est-ce?
Donc le grand, l'énorme, l'immense Philippe Forcioli. Auteur, compositeur, interprète.
Bonjour.
On vient d'écouter une chanson donc qu'il a choisie. C'est aujourd'hui lui évidemment qui va assurer la programmation musicale. On va écouter que du Philippe Forcioli. Ça va être une balade dans l'univers de Philippe Forcioli, dans le passé, dans le présent, dans le futur. On vient d'écouter donc une première chanson d'un double album qui vient de paraître assez récemment. Il est passé par ici, une sorte, on dirait, un album anthologique un petit peu. Chanson donc on écoutait Asmina, avec un petit commentaire. Toute ressemblance avec une blondinette ayant vécu vers 1963 à Oran, cité des Castors près de Saint-Eugène, n'est pas du tout le fruit du hasard, mais alors pas du tout. Et à la contrebasse, c'était Pierre, peut-être, Soulier.
Philippe
Soulier. Au chant, guitare, composition, Philippe Forcioli. Pourquoi cette chanson, pour commencer?
Bien, vous m'aviez parlé tout à l'heure, on va commencer par l'enfance. Donc voilà, moi j'ai passé les 14 premières années de ma vie à Oran, en Algérie. Mais j'ai connu l'Algérie avant l'indépendance et après l'indépendance. Et donc voilà, c'était pour commencer par le début, puisque c'est dans cette terre lointaine, à problème, puisque arrivé dans le studio, il a été question d'Algérie déjà.
C'est très étrange d'ailleurs cette petite coïncidence, qui n'en est peut-être pas une.
Avec le panorama hebdo, enfin bref. Poursuivez, je vous en prie Philippe, cette grande question, qui est
bien, et à la relation assez compliquée, même encore aujourd'hui, qui peut y avoir entre ces deux pays, ces deux cultures, et les gens qui, comme moi, y sont nés, et qui font partie de l'immense cohorte de ce qu'on appelle les exilés.
Parce que à l'origine, je crois que votre papa est corse.
Mon papa est corse, même ma maman était née en Algérie, son papa était né en Algérie, enfin ils étaient en Algérie depuis 1850. Mon papa lui a été envoyé pendant la guerre 39-45, il venait de Corse, il a été envoyé avec les armées Giraud dans la région d'Oran, dans l'Oranie, et c'est là qu'il a rencontré ma maman.
Donc vous êtes né à Oran.
Ah oui.
Et alors l'orthographe justement donc de Forcioli, puisque vous êtes corse, F-O-R-C-I-O, un seul L. Il n'y a pas deux L pour votre nom, votre nom de scène également, donc Philippe Forcioli. Après cette jeunesse, vous avez en fait actuellement conservé un peu de relations avec des liens encore avec l'Algérie, avec Oran ou
non?
Non. En distendu peut-être, des inspirations parfois ou des,
Non, je suis le seul de ma famille à être retourné en Algérie, parce que mon frère, ma sœur, mes parents, quand le départ a été définitif, mais c'était 1967. Non, pour eux, l'Algérie, il ne faut plus en parler. Mais moi, j'avais besoin de retourner voir le pays. J'y suis retourné en 1986. Et comme on dit chez les hommes politiques, no comment.
Et puis il ne fallait pas y aller en 94, parce que c'était encore pire.
C'était terrible, no comment.
Et la suite alors, où arrivez-vous en France? Vous arrivez
à Marseille.
En France métropolitaine, à Marseille.
Voilà,
ah, très bien.
Comme beaucoup,
comme tous.
Oui, moi, voilà, ma seconde vie, je dirais, c'est Marseille. C'est là où... Oui, où j'ai tout découvert de la France, je dirais. Parce que en Algérie, on vivait avec entre 10 et 12 ans de retard avec la France quand même, sur beaucoup de choses. J'ai découvert... Enfin, ça m'a marqué parce que moi, mes influences, elles sont très classiques. Je suis vieille France, dans le fond de moi. J'ai pas du tout été marqué par la vague anglo-saxonne, le rock, les Beatles, les Rolling Stones. Vraiment, ça m'a jamais marqué, alors que les gens de mon âge étaient là-dedans. Donc, dès le départ, j'étais un peu à côté de la plaque. Et j'y suis resté.
Vous avez quand même des souvenirs musicaux, avant 14 ans, d'Oran?
Oui, la radio qu'on écoutait, la radio française, c'était Europe numéro 1, surtout à Oran, qu'on écoutait avec les hit-parades. C'est là, oui, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, oui, à ce qu'on peut appeler la chanson. Je me souviens d'une émission où... c'était le premier hit parade, et tant que les gens téléphonaient, ils passaient la chanson, ce qui fait qu'on pouvait écouter 20 fois dans la même heure, la même chanson. Et c'est là où, vraiment, où je me suis pris d'amour. Ben, ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer pour quelqu'un que je considère comme un immense poète, Claude Nougaro. Ouais. Mais sa chanson, c'était « Je suis sous ton balcon ».
Marie-Christine.
Marie-Christine. Et bon, voilà, ça
c'est... bien, c'est parce qu'il a fait mieux, peut-être.
Ah, mais elle est formidable.
Elle est très
de toute manière, Nougaro, on trouve peu de,
oui,
peu de navets chez lui.
C'est vrai.
Oui. Bon, c'est très bien. On aime bien ça, Gérald, parfois, faire ressortir des souvenirs qui sont, qui feraient peut-être ressembler à notre émission radio, à une émission télévisée, à un divan ou je ne sais quoi. Donc, peut-être, laissons la psychanalyse. On ne va pas non plus chercher à exhumer des choses qui sont très anciennes. Mais ça peut être intéressant parce que là, donc, vous évoquez un peu cette idée, la rencontre moi, je m'apprêtais à dire la musique, plutôt avec la chanson.
Avec la chanson, je dirais pas que c'est une rencontre, voilà.
Non, mais
je suis éveillé à ça, mais aussi à d'autres voix que j'aime. Parce que Oran, vous savez, était une ville très espagnole. Hein, le 90% de la population métropolitaine, je dirais européenne, était espagnole. À Oran, Garcia, Hernandez, Lopez, Fernandez, Alarcón, voilà. Bon, moi j'ai été marqué par ça. Et entre autres, donc je parle l'espagnol. J'ai été très touché par un chanteur que j'ai eu la chance d'aller écouter avant qu'il meure, Atahualpa Yupanqui. C'est là où je pense que la première fascination du chanteur à guitare m'a touché, parce que fallait voir le bonhomme, quoi, tout seul avec sa guitare, comme il pouvait remplir tout, une cathédrale avec sa façon, sa carrure de bûcheron énorme et ses mains de velours, vraiment. Il y a eu Paco Ibáñez, puis d'autres voix, Ari Belafonte, j'ai beaucoup aimé. On entendait tout ça, on entendait aussi énormément Amalia Rodriguez. Et ça, voilà, ce qui m'a marqué. Mais c'était franco-espagnol-portugais. L'anglo-saxon m'a jamais touché, un peu plus tard, mais touché en sens inverse. Ça me donne de l'urticaire, vraiment.
Ah oh mince, ces figures de Bob Dylan.
À l'exception. Alors voilà, on va tomber. On a dit le mot, à l'exception de ce type, Bob Dylan, dont je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'il pouvait raconter, mais je m'en fiche. Ça me plaît d'entendre sa voix, sa façon. Et puis, voilà. Mais je dirais que c'est plutôt à mon arrivée en France que j'ai commencé à découvrir ces gens-là. Mais eux étaient connus en France depuis bien longtemps. Mais nous, c'était pas ça pour le... Et puis, on n'avait pas... Moi, la première fois que j'ai vu la télévision, c'est en France. Donc j'avais 14 ans et demi. Donc j'ai pas eu cette culture que les jeunes de mon âge avaient. Parce que tout le monde avait une télé en France, pas nous.
Il n'y avait qu'une chaîne, c'était le RTF à l'époque.
Oui, mais c'est là où... Moi, j'ai fait ma culture grâce à la télévision, c'est extraordinaire. C'est là où, d'ailleurs, où j'ai découvert, on va peut-être en parler, Joseph Delteil. C'était une époque où à 20h30, on pouvait passer 2 heures avec Joseph Delteil. Les choses ont bien changé.
Il y a encore des chaînes qui sont très exigeantes avec la culture.
Voilà, mais les chaînes, voilà. C'est-à-dire que c'est le grand supermarché, voilà. Alors que là, c'était pas les chaînes, c'était le peuple en son entier qui devait regarder ça. Et il y avait un souci d'élever le niveau du peuple, ce qui est vraiment pas le souci aujourd'hui.
Il y avait Jean-Christophe Averty qui vient de nous quitter, qui était un génie, s'il en est, de la télévision. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il en fait partie.
Voilà, moi je regrette ce temps-là. Mais comme tous les vieux cons, je regrette mon enfance.
Alors vous faites partie de la catégorie, comme vous l'avez bien dit, du chanteur à guitare, qui parfois peut être un peu péjoratif dans la bouche de certaines personnes.
Oui, bien sûr.
Et puis quand c'est mauvais, ça peut être très très bien et moins bien. Je pense que vous faites partie du haut de gamme du chanteur à guitare. Vous avez commencé la guitare à quel âge, parallèlement, écrit des premières chansons à quel âge?
Alors voilà, moi, quand je suis arrivé en France, bon, il y a le lycée, je fais de très mauvaises études, moi je suis renvoyé du lycée, mais même si
j'ai... Ah ben, mauvais garçon ou mauvais résultat? C'est quoi?
Complètement à côté, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir le bac en candidat libre. Mmh. Voilà, ça j'y tiens.
Putain.
Dans quasiment l'année d'après. Je l'ai passé en même temps que les copains, sauf que moi, j'étais pas au lycée, oui. Et c'est, moi, ce qui m'a touché vraiment, alors là, si l'on parle de, entre guillemets, ma vie d'artiste, c'est la poésie. Moi, j'ai commencé à écrire des poèmes, c'était ça qui m'a passionné. Puis un jour, un copain au lycée, on parle, je venais de faire un stage de moniteur de vacances, là, de colonie. Et j'avais vu un type jouer de la guitare, mais pour de bon, cette fois-ci, en vrai, quoi. J'avais trouvé ça formidable, parce que tout le monde était autour de lui. Vraiment. Et je lui en parle, au copain. On était tous les deux au fond de la classe. On nous embêtait pas. On pouvait discuter tranquille. Et il me dit, mais moi, j'ai une guitare. Si tu veux, je te la passe. J'en fais rien. Donc, il m'a passé une guitare. Et ça a été un coup de foudre. Une semaine après, j'avais déjà écrit une dizaine de chansons. J'ai tout de suite compris les...
Autodidacte?
Les rudiments. Ah oui, complètement. Je sais même pas lire la musique. J'ai écrit plus de 500 chansons, mais je ne sais pas écrire la musique.
C'était à Marseille, ça?
Ça, c'était à Marseille. J'étais au lycée Pierre Puget, ça a commencé comme ça, c'était 1971 à peu près. Et puis voilà, j'ai écrit au début mes chansons, n'ont rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui. C'était Même si j'ai appris les rudiments de la guitare en accompagnant les chansons de Brassens, les chansons de Leclerc, de Gilmore Wright, qui avait beaucoup de succès à l'époque, Moustaki aussi. Donc voilà, je me suis fait mon petit monde et peu à peu, ça a pris toute ma vie, puisque...
Vous continuez?
Oui, là aujourd'hui, j'ai... Comme dit Brassens, alors ralentissant le pas, on fit la route à la papa. Là, aujourd'hui, je fais la route à la papa.
Qui va à Lontano, va piano, va salon.
Mais à partir de 1977, je n'ai fait plus que ça.
Vous
je suis parti
Dylan,
avec un... Oui,
la
oui.
tournée permanente.
Oui, mais avec une vie aussi qui m'a... Par la chanson, par la poésie. Je suis parti, moi, avec un sac à dos et une guitare. Hein. J'ai vécu 10 ans comme ça. Et j'écrivais... Et je composais, et je chantais par-ci, par-là, et puis peu à peu je me suis fait repérer, en fait. Alors j'ai vécu une petite expérience du métier, entre guillemets.
Oui.
Mais voilà.
Ok, tourné court. Par,
bon,
hasard,
je suis un peu répertorié dans le dans,
est-ce maintenant
dans
qu'il
le
faut,
petit monde
qu'il faut placer
pas...
ce mot, hein, Philippe Forcioli de Georges Moustaki. Je vous laisse. C'est à Philippe Meyer, c'est ça qu'il a indiqué cette phrase qui est intéressante, qui est pour le coup qui est parlante.
Oui, Moustaki qui disant de moi Philippe Forcioli qui gagne à être connu, non, je corrige, qui fait tout pour qu'on ne le connaisse pas. Voilà, c'était... Mais Moustaki, je l'avais rencontré à Québec, et on s'est retrouvé à Montauban, j'étais programmé, mais lui était l'invité vedette, et le dernier jour du festival, le festival de Montauban avait organisé un banquet où tous les artistes présents dans la semaine se retrouver. Et donc là, Georges, enfin Joe, on l'appelait Joe, Moustaki nous dit, bon, merci à tous d'être là, mais voilà, j'ai pas pu aller vous écouter les uns les autres. Est-ce que vous voulez bien chacun chanter un morceau? Donc moi, les copains me disent, allez, chante une chanson, j'avais pas envie, moi. J'en avais déjà bien mangé et trop bu. Mais donc, je chante une chanson, comme ça, bon. Et puis voilà. Et je retourne chez moi, et 10 jours ensuite, je reçois un petit paquet, donc avec un petit mot, Cher Philippe Forcioli, merci d'avoir participé à ma soirée. J'ai cru comprendre que vous aimiez la poésie. Permettez-moi de vous offrir ce stylo Mont Blanc qui vous aide à écrire d'autres choses. Je viens souvent chanter dans le sud de la France. Je suis très honoré que vous figuriez sur un plateau au signé Georges Moustaki. J'en revenais pas. Moi, c'est une blague ou quoi? Mais vous voyant tout ça. Et donc voilà, il est venu jouer à Marseille, un théâtre assez connu à l'époque, qui vit encore, le théâtre Tourski. Mmh. Et il m'a invité, et là, la surprise, parce que dans tout le public, il y avait au moins 1000 personnes, personne ne s'attendait à me voir déboucher sur scène, parce que beaucoup de gens me connaissaient de Marseille. Mmh. Donc, un ami que vous connaissez peut-être pas, Philippe Forcioli. Waouh !
On va scotcher un certain nombre.
Et donc voilà, après ça a été une belle rencontre avec Joe. À chaque fois que je montais à Paris, je dormais chez lui à l'île de Saint-Louis. Il m'a fait découvrir des gens. Il m'aimait bien et moi je l'aimais beaucoup. Mmh.
Est-ce qu'on pourrait écouter cette chanson que vous lui avez chantée à Montauban?
Si elle est
est-ce qu'elle est dans les différents albums? Parce que je propose aux auditeurs une
celle
petite pause musicale.
Chantée à Montauban?
Non, mais si c'est ça que je pense
maintenant.
Mais
on en a pas mal. Hein. Alors, je crois qu'il y en a 12.
Autre question. Que souhaiteriez-vous que nous puissions écouter
qu'on
maintenant?
Qu'on écoute maintenant.
Histoire. Non, mais ça peut être celle-ci. Histoire de faire une petite pause, de marquer. Vous avez bien parlé depuis le début de l'émission.
Dans un morceau du double album. Il est passé par ici.
Il va falloir qu'on trouve quelque chose.
Hein, trouver quelque chose.
Hein. C'est nécessaire. On vous aviez dit tout à l'heure au nez. Je crois que c'était l'expression que vous avez employée. On verra comme ça.
On va faire au nez.
Au jugé, on verra ce qu'on.
Philippe Forcioli a aussi écrit des livres, 3 livres.
Oui. Oh ben peut-être une chanson de cette époque alors. Une vieille chanson.
Vieille, ça fait quoi? Ça fait une quarantaine d'années à peu près, c'est ça? C'est pas si ancien que
ça. On l'a pas dit, mais.
Allez, écoutez, si ça vous embête pas, on peut mettre, puisque on est en printemps, la chanson qui s'intitule « La chanson du printemps ».
Alors,
c'est dans ce disque-là.
La chanson du printemps.
Allez,
extrait de l'album.
On va tout
Le temps des bleuets. Je crois que c'est un album édité, en tout cas, pas les chansons qui sont peut-être plus anciennes, mais édité en 1990. Il est sorti celui-là.
Oui, j'ai fait ça en 90. Oui.
Mais édité en 2000.
Oh, il a été réédité plusieurs fois. Oui, oui.
Vous trouverez tout ça sur le site officiel de Philippe Forcioli en lien avec ses récompenses, parce qu'il en a eu quand même. Il faut le dire tout de suite maintenant qu'on vient de parler de Georges Moustaki. Revenons à notre invité, qui fait tout pour ne pas être célèbre, mais qui a un talent immense, et n'importe qui n'a pas le prix de l'Académie Charles Cros en
95,
ouais. Et puis le Jacques Douai aussi. Alors le prix Jacques Douai, c'est autre chose encore. En
2009. Oui, c'est autre chose, 2009.
On écoute Philippe Forcioli, la chanson du printemps.
À la cime des arbres, je m'y plais. À la cime des.
Oh, laisse celle-là, c'est pas grave.
On corrige donc finalement, c'est bien la cime du printemps, c'est ça?
Non, la chanson du printemps.
La chanson du printemps, j'ai dit n'importe quoi. 14h28, voilà comme ça, on donne l'heure sur Radio Canu, c'est très bien. Mais c'est Philippe Forcioli qui va chanter dans une seconde, vous allez voir ça.
Village posé comme baiser sur des joues lisses, la terre, campagne claire, Milan derrière, ferme plantée, clocher, rivière, des croix partout, des chemins doux, l'œil se délivre, danser les pierres, somptueux matin de printemps, tisser des blancs, des verts, des pâles, étaler la beauté vassale, jour des joyeux, joyaux de l'âme. J'écris ton nom, oh mon ivresse, noblesse au front, danse allégresse, humble et simple, souple couplet, ma plaie cirise d'une antienne, mon rêve. rêve à soif à jamais tant rare et baroque qui me mène la fin, le sang, le ciel, le chavire, ravissement, ravi la lyre, tra la la lyre, l'an loin, trialala, moula légère. Délice, délice, délice de laine, des loriots luttent, des flûtes femmes, des flammes en rute, la lutte là. La chanson est un cœur qui bat, joie d'une larme à la paupière. Sable fin, anneau des mains, ni des tempêtes. Garde-moi doux, berger des pauvres, où vais-je? La voix est close.
Nous écoutions la chanson du printemps, interprétée, composée et chantée à la guitare il y a bien 20 ans, nous disait-il, par Philippe Forcioli, ici présent, notre invité du jour, qui va peut-être nous dire quelques mots sur cette chanson, son inspiration, comment elle a été écrite. C'est une chanson
en
d'automne
voiture,
un petit peu.
En voiture.
Ah, en voiture. Sur ouais, un coin de table
sur, Non, sur une route, je revois la route du côté de Castres et Laiol, là-bas, un petit matin. Du printemps du Loriot, puisqu'on dit qu'il y a trois printemps. Le printemps du Loriot, le printemps du Coucou, le printemps du Rossignol et le printemps du Coucou. Voilà, le premier printemps, c'est-à-dire la période qui va, disons, du 1er au 20 mars, quoi, à peu près.
On y est encore, on vient de le quitter.
Voilà, où le vert est vraiment tout naissant, tout blanc. Mm-hmm. Oui, voilà, mais bon, d'un coup vous m'avez pris à brûle-pourpoint, quelle chanson, j'ai vu Printemps, je dis allez, la chanson du printemps, mais elle, je voulais rien de signifier de...
Ah non, mais une chanson d'actualité,
voilà.
Dès qu'on écoute une chanson de vous, Philippe Forcioli, c'est très bien, hein, c'est, si c'est lié à quoi que ce soit, ben tant mieux, ou si c'est lié absolument à rien, c'est encore mieux.
Chaque chanson est un univers en soi, moi j'ai l'impression, c'est ce qui me vient en esprit, à la fois, on parlait hors antenne un peu de, peut-être une mélancolie sous-jacente à tout ça, proche du... De quoi ? Du fado, du chant corse, une complainte dans la tradition de la complainte française ?
Oui, je pense que je suis dans ce courant-là.
La complainte portugaise aussi,
hein.
Tu parlais du fado.
Oui, dans le désenchantement enchanté.
Émerveillé quand même, encore émerveillé.
Oui, qui cherche en tout et en tous le petit clin d'œil de la merveille que l'on ne voit pas toujours et qui pourtant est toujours là.
Si on souhaite, tu parles d'univers, là c'est un univers un peu, comment qualifier ça, mental, mais pour revenir un peu à des lieux, vous avez évoqué donc en début d'émission Oran, là où vous êtes né il y a de cela quelques années, vous avez évoqué ensuite Marseille, où vous avez fait vos premiers pas notamment, enfin un peu, non c'est pas tout à fait vos premiers pas, mais vous êtes retrouvé sur scène avec Georges Moustaki dans ce théâtre où finalement le public vous connaissait bien, et puis ensuite vous avez évoqué le Québec également, vous étiez arrivé d'aller à, est-ce que vous avez presque parcouru toute la France, voire d'autres pays d'Europe ou du pays du monde francophone, peut-être où, quand vous parliez de Québec, c'était
oui,
francophonie,
chanté,
c'est ça ?
J'ai chanté aux îles de la Madeleine, au Canada. J'ai chanté en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, à l'île de la Réunion. Et puis en France, oui, un peu toutes les provinces françaises, bien sûr. Et à Lyon, souvent. Puisque je connais cette ville grâce à des grands amis que j'ai depuis plus de 30 ans, 37 ans, chez qui je loge encore ce soir. Mmh. Et c'était une époque, alors voilà, quand je suis venu ici, il y avait tout un groupe de chanteurs et des gens. Alors, je ne sais pas, vous qui êtes lyonnais, si vous, ces noms vous dire quelque chose. Natacha Bezrich.
D'adoption seulement.
André Bonhomme.
Oui, André Bonhomme, c'est un nom qu'on connaît.
Pierre Delorme. Paul Sabia, que je trouve extrêmement talentueux, mais j'ai plus aucune nouvelle de ce garçon. Bon, Michèle Bernard, j'imagine que vous la connaissez quand même, la chanteuse Michèle Bernard. Ah bon? Oh là là, il faut que vous connaissiez Michèle Bernard.
On ne demande que ça.
En revanche, il y a un Marseillais que nous ne connaissons pas, c'est... Vous l'évoquiez, je crois, sur un texte où Gérald, tu en parlais tout à l'heure, enfin, avant que l'émission ne commence.
Michel Barlier.
Voilà, Monsieur Barlier, effectivement. C'est.
Ça, c'était un copain, c'était un chanteur de bistrot, je vais dire, mais c'était pour moi le plus grand chanteur que j'ai jamais entendu. Un talent fou.
Mais guitare pas... également.
Ah oui, ça accompagnait la guitare. Mm-hmm. Puis il chantait tout le répertoire de ce que j'appelle la chanson, c'est-à-dire de Brassens, Brel. Traîner, Béart et autres.
Est-ce que vous avez chanté vous aussi? Oui, vous avez...
Avec lui?
Enfin, certes avec lui, mais est-ce que vous... Enfin, comment dire, vous évoquez un répertoire, vous l'avez également chanté ce répertoire, Brassens et tous ou,
Oh, moi je peux chanter Brassens et Félix Leclerc, mais je ne peux pas chanter Jacques Brel, c'est trop difficile pour moi.
À ce propos, vous avez rapidement, dans votre longue carrière, commencé tout de suite par interpréter vos chansons. Vous n'avez jamais pensé les faire chanter à d'autres comme Brassens, qui au début voulait écrire pour les autres, et puis qui a fini par interpréter ses chansons. Vous n'avez pas fait beaucoup de reprises, en fait.
Non. Non, puis je chantais pour les copains, j'étais pas du tout dans un milieu musical, à Paris ou tout ça. Mmh. Mais voilà, mais ça a mal tourné pour moi, parce que ça a plu.
Et ça continue.
Oui, ça se peut, je sais pas. Mais là, depuis quelques années, quand même, là en ce moment, je suis à Lyon parce que je vais donner un spectacle où je vais chanter, mais je vais pas chanter mes chansons. Mais je vais surtout lire parce que parallèlement à la chanson, à écrire des chansons, chanter. Moi, je suis un grand diseur et un grand lecteur devant l'Éternel. Le prix de l'Académie Charles Gros, je l'ai reçu pour ma lecture d'un livre de Joseph Delteil. Mmh. C'est, je dirais, je dis pas que je suis un mauvais chanteur, mais je suis un bon lecteur, voilà. Un bon diseur de poésie. Et donc là, ce spectacle sur 14 auteurs, sur 14-18, bon voilà, c'est un exercice qui est très différent de ce que c'est qu'un répertoire de chansons. Il s'agit de lire.
Et pas de réciter, hein, c'est ça? C'est bien lire, vous avez le livre en main.
Réciter, c'est autre chose.
C'est vivre,
ouais,
c'est faire partager.
C'est faire vivre un texte, c'est faire entrer... comme si le public était derrière mon épaule et lisait en même temps que moi. C'est leur rendre clair la complexité de la phrase française, de la littérature aussi. Et ça, c'est, je dirais, ce que je préfère. Parce que tout petit, déjà à l'école, j'étais le plus doué pour ça, pour la récitation et la lecture.
Oui, parce que c'est quand même un peu lié. Enfin, je suppose que certains des textes, si vous les lisez assez régulièrement, vous devez les connaître. Enfin, vous devez...
Ah, je les connais, mais il me faut le support de l'œil. Ça ajoute à une façon d'interpréter.
Ah, certainement.
Le théâtre, c'est autre chose. La lecture, c'est un art.
En soi.
Oui.
Bon, il y a des grands lecteurs, on en connaît.
Dans le oui, chemise, ça revient, dire, ça revient.
Quand même.
Ça revient.
Un cœur simple par Lucchini, c'est quand même magistral comme lecture aussi, Flaubert.
Voilà, sauf que je dirais que Lucchini, il, comme beaucoup de lecteurs que j'entends, il y en a un autre qui est très sollicité, souvent Michael Lonsdale, mais ils lisent tout, je dirais, ils sont capables de tout lire, mais c'est toujours de la même façon. C'est pas forcément que ça, lire.
Alors là, justement, il y aura 14 auteurs pour 14-18. Alors là, ça les comble. Hein, c'est un.
Oui.
Il semble que les soirées sont complètes.
Oui.
Vous produisez chez des amis, c'est des spectacles en appartement sur invitation, réservation d'un petit cénacle d'amateurs et de fans, dont je suis. Alors je vous ferai un compte-rendu puisque j'y vais vendredi soir. Donc c'est 14 auteurs pour 14-18, une anthologie de tout un tas d'écrivains et poètes, Charles Péguy, certains sont morts au front, d'autres sont revenus, d'autres ont été blessés. Il y a Charles Péguy, Alain Fournier, Guillaume Apollinaire, Vous avez beaucoup de...
Jean Giono, Céline...
Voilà, Céline, Roland Dorgelès, hein, l'auteur des Croix de
Bois... Louis Pergaud.
Gabriel Chevalier, Louis Pergaud, La Guerre des Boutons, 1912. Oui. Vous avez aussi Joseph Delteil, Paul Fort. Alors, Paul Fort s'est fait descendre par Apollinaire, mais bon, ils sont réunis dans la soirée, je trouve ça très bien de réconcilier les morts comme ça. Georges Brassens, qui lui n'a pas... C'est évidemment 14-18, il est né après.
Non, mais il disait que celle qu'il préférait, c'était 14-18.
Ouais, voilà, dans une chanson. Sylvie Germain, alors cette Sylvie Germain, c'est la seule femme du programme des 14.
Oui.
Donc elle est née en 54 à Châteauroux. Mais et non. Elle a été même ministre de la Culture en 81 avec l'arrivée de Génération Mitterrand. Je ne sais pas ça.
Donc ça y est, auditeurs, nous avons basculé.
Direction
nous sommes
passés
un deuxième temps d'émission.
Ah, après, le aussi.
Je pense qu'on a bien brossé, enfin qu'il a bien brossé son portrait, Philippe Forcioli. Là maintenant, nous sommes à la partie quelle est votre actualité. Donc il y a différentes choses. Il y a des concerts actuellement. Il y a aussi une souscription qui
il y a beaucoup d'actualités
jusqu'à la fin décembre. Et là, toi, la première que tu es en train de couvrir.
Voilà, c'est 14 auteurs pour 14-18 qui est donnée cette semaine. Mais s'il y a des gens intéressés, les auditeurs, et on mettra ça sur le blog, vous pouvez contacter directement Philippe Forcioli et une aide à la production, j'imagine, les Steve Sen National de Foix et de l'Ariège, avec un téléphone. Et si vous pouvez, c'est très à la mode en ce moment, certaines personnes font venir chez eux des concerts, des troupes de théâtre, et vous pouvez donner des concerts chez vous. C'est très réglo, c'est très, on va dire, normé, hein. Il y a des choses à faire, mais... Ça se fait beaucoup.
Et alors,
c'est des ambiances toujours étonnantes. Et moi, j'ai découvert Philippe Forcioli dans ce cadre-là, d'un concert privé, dans une maison. Je salue, je suis sûr qu'il est en train de nous écouter, mais où, alors, on nous écoutera plus tard, Franck Bébin, un ami lyonnais, qui était venu ici présenter sa chorale des Croix-Roussiens, qui était venu chanter en direct. Donc c'est grâce à Franck. Que j'ai rencontré Philippe.
Et alors, René Guicadou, ça par exemple, non, c'est autre chose. Ça, c'est un album et c'est pas en appartement. Ça, c'est sur scène. Vous en chantez quelques chansons?
Non, chante quelques chansons comme ça sur scène depuis longtemps de Guicadou. Mais là, non, c'est un ouvrage qui m'a pris 2 ans. C'est un triple album. 2 albums sont consacrés à des poèmes que j'ai mis en musique de Guicadou et des poèmes que je déclame. Et tout ça, c'est illustré. Cette pièce de Jean-Sébastien Bach au piano, et le troisième CD, c'est l'intégralité des pièces de Bach que j'ai choisies dans le disque. Voilà, René Guicadou, c'est un autre monde, c'est autre chose. Mais vous voulez qu'on parle de Guicadou?
Parle de ce que vous souhaitez. Il nous reste encore une vingtaine de minutes pour parler de ce que vous voulez.
On peut développer encore 14-18.
Il n'y a pas
beaucoup dit sur le spectacle. Beaucoup de textes, lui, qui alternent avec des chansons. Voilà, de cette époque qui dépeint cette salle d'art d'Eder, quoi, qui n'était pas la dernière, justement.
Ben oui. Et puis.
Loin de là.
Non.
Et une variété d'auteurs, d'inspiration, de styles.
Voilà, j'ai essayé justement d'être à côté, je dirais, de montrer tout ce que ça a pu, en résumé, ce que ça a pu susciter comme écriture, parce qu'il y a des extraits de lecture, je dirais, antimilitaristes, d'autres qui sont anti-allemandes, d'autres qui sont...
Nationalistes, oui.
Qui n'ont rien à voir, enfin, qui parlent de la souffrance humaine et de la monstruosité de la guerre en général, pas forcément de celle-ci. Je n'ai pas cherché à prendre parti, parce que c'est tellement facile, un siècle après, de dire...
C'est pas plus
oui,
bien.
On n'aurait pas dû.
Enfin, moi, j'aurais fait ça.
Donc voilà, j'essaie de d'émouvoir et même de faire rire avec 14-18.
Et vous alternez les formes de texte, un peu de poèmes. Là, on vient de nommer Guillaume Apollinaire. Je pense à ce poème sur l'entrée en guerre de la France. Je crois la petite auto. Enfin, il me semble que c'est plus ou moins ça le titre, avec notamment à l'intérieur un calligramme où il fait il trace une automobile avec ses vers, et évoquant donc un voyage qu'il fait avec deux compagnons. Enfin, du moins ils sont trois en tout avec le chauffeur, je crois. Et à la fin de ce poème, qui fait quoi, une cinquantaine de vers. La guerre est déclarée, et donc ça y est, alors qu'au début ils partent, ils quittent un endroit d'Alsace, je ne sais plus, un 31 août, et puis voilà, tout le poème continue. Donc oui, y est-il celui-ci ou non? Ce sont d'autres poèmes d'Apollinaire?
Non, le poème d'Apollinaire, c'est un poème que j'ai mis en musique il y a longtemps, que j'utilise là pour rendre hommage à Apollinaire.
Qui meurt de manière très ironique, vous l'indiquez sur une vidéo qui se trouve sur Vimeo.
Il meurt le 10 novembre 1918.
La veille
de ses blessures ou de la grippe espagnole ?
De la grippe espagnole, ouais. Mais bon, il était déjà affaibli par cette blessure au front.
2 ans avant, oui.
Mais oui, tout le peuple de Paris ayant appris que Guillaume II d'Allemagne allait capituler, toute la nuit on manifestait dans les rues en criant « À mort Guillaume, à mort Guillaume, à mort Guillaume !» Et lui, le pauvre Apollinaire croyait que c'était pour lui.
Et puis il n'a pas eu de chance parce que Giorgio de Chirico l'avait déjà représenté de manière prémonitoire dans un tableau, avant même qu'il ait cette blessure à la guerre.
Voilà, mais comme il a été déclaré à l'état civil que le lendemain après 11 heures, puisque l'armistice est à les 11 coups, le 11-11-11, le 11 novembre à 11 heures qu'on a signifié l'armistice allemande, et sa compagne l'a déclaré qu'à 3 heures de l'après-midi, donc il a fallu 40 ans avant qu'on reconnaisse qu'il était mort pour la France, quoi. Mmh. Donc sa veuve est une pension. Mais maintenant il est marqué sur le monument aux morts qu'il y a au Panthéon, où toute la liste de tous les hommes de plume français qui sont morts, il y en a plus de 580, hein, il n'y a pas qu'Apollinaire.
Il y a sa magnifique tombe au Père Lachaise avec un texte aussi.
Oui, Guillaume Apollinaire, oui, voilà, là on est en haute poésie, là.
Oui.
Et donc vous avez opéré cette sélection de différents textes.
Voilà, ça c'est pour 14-18, mais la plupart des poètes, ce sont des poètes que je vais chanter. Les textes que je lis sont de littérateurs.
De la prose,
voilà,
oui.
Comme Dorgelès.
Voilà.
Et puis Blaise Cendrars est peut-être chanté aussi.
Ah, Blaise.
Non, mis en musique.
Vous le qualifiez sur la vidéo.
C'est un extrait de La Main Coupée.
Formidable Blaise.
Ouais. Mm-hmm. Sacré Blaise.
Il y a Céline aussi. Hein.
Ah, Céline controversée, indiquez-vous.
Oui. Ah, ben ça, on peut dire qu'il.
Et Le Clésio.
Qu'à partir de 39-45, il est controversé. Mais là, dans cet extrait qui est Le Voyage au bout de la nuit. Mmh. C'est un des plus grands réquisitoires contre la guerre.
Ça a commencé comme ça. C'est comme ça que c'est ce
c'est
passage.
C'est comme ça qu'il s'est fait connaître.
Mais je veux dire, c'est bien le tout début. Il me semble les premières lignes de ce Voyage au bout de la nuit, ça a commencé comme
c'est
ça.
C'est ça. Ça a commencé.
Et d'ailleurs,
comme ça.
Vous lisez ça. Vous lisez ce texte.
C'est ça.
C'est ce que celui-ci.
Je lis ça.
Est-ce qu'on écoute quelque chose, Gérald? Là, il nous reste encore un petit quart d'heure.
On va écouter. Qu'est-ce qu'il faudrait? De toujours extrait de l'album, double album récent. Il est passé par ici. On avait écouté tout à l'heure Asmina pour présenter l'émission sur l'enfance algérienne, et voilà qu'on change de disque et qu'on poursuit ce parcours avec Philippe Forcioli.
Alors moi j'y suis pas tout à fait, c'est le disque 1, c'est ça, disque 2. Donc
c'est dur la technique.
Hein. Ah bah oui, c'est très compliqué.
Hein. Je peux le dire puisque moi je suis incapable de bouger tous ces petits curseurs.
En plus, il y a des choses qui ne marchent plus, il y a le lecteur B qui ne marche plus.
On n'a qu'un lecteur sur deux qui marche.
C'est on ne sait pas comment tout
négocier. On est obligé de meubler.
Donc allez, vas-y, je t'en prie, refais Gérald.
On écoute donc de Philippe Forcioli, extrait de l'album Il est passé par ici, qu'est-ce qu'il faudrait? Toujours avec Philippe Soulier à la contrebasse, il me semble.
Oui, mais alors il manque, on peut écouter tout l'album là. Donc tu m'indiques, s'il te plaît, ce que je lance précisément, moi je ne sais plus. Ah bah alors c'est fastoche. Allez, donc ça va commencer. Encore 10 minutes pour continuer sur Radio Canut, et puis après Blues des Canuts, tout un tas de choses, mais on aura le temps de l'annoncer. Philippe Forcioli.
Tu payandon, maloladi de groupe, pati de beau, daboda di bodata, qu'est-ce qu'il faudrait, dit, pour que ça s'embrase, que la vase s'enflamme, une torche brandie, qu'est-ce qu'il faudrait, dit, pour que ça loupiote, que les potes du maquis n'aient pas en vain glané leur vie, qu'est de le vouloir du peuple aujourd'hui. Une vie pépère, un loto bien garni, quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Ronger son nonos et merde à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça dévie, que la vie parte en vrille. Une folle toupie, qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça dérouille des grenouilles en avalanche une pluie de crapauds pourris? Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Le must, le bit, le net et les textos gratuits. Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Ronger son nonos et merde à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça fissure, que le murmure éclate en un charivari? Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça dérape, que le rap et tous ces traquets de banlieue lèvent l'oreille à la Nouvelle-Mélie? Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? S'éclater dans des teufs, cracher sur son pays. Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Ronger son nonos et merde à Jésus-Christ. Qu'il faudrait dire une bonne guerre avec des bombes, avec des tombes, des combats sans merci. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Le retour de la peste, une veste en coupe du monde comme on n'en avait jamais pris. Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Bouffer bio, pas bio, mais bouffer bouffon, oui. Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Ronger son nonos et meurtre du cri. Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça crépite, que les pépites du génie nous diadèment l'esprit? Qu'est-ce qu'il faudrait dire pour que ça clignote, qu'une France éternelle en appelle à Saint-Louis? Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Télé à 500 chaînes, une chaîne avez-vous dit? Quel est le vouloir du peuple aujourd'hui? Ronger son nonos et merde à Jésus-Christ. Ronger son nonos et merde à Jésus-Christ. Ronger son nonos. Tout ce désordre du monde, c'est mon désordre à moi. Plus profonde est la sonde, plus grand le désarroi. Emporté dans la ronde, enfer et paradis, j'entends la voix qui gronde. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Qu'est-ce qu'il faudrait?
Nous écoutions, vous êtes bien sûr Radio Canus en 2.2 avec notre invité de marque spéciale, émission Philippe Forcioli, le chanteur à guitare que tout le monde adore, qui se produira toute la semaine à Lyon pour un spectacle autour de 14 auteurs de 14-18, mais il a quand même commis 12 albums personnels, écrit 3 livres, on n'en a pas encore parlé, rencontré d'immenses des grands de la chanson comme Nougaro, comme Moustaki, il en a parlé, et il pourrait nous parler d'autres personnes avec lesquelles il était très proche, comme Alain Leprêt.
Il y a eu un espagnol nommé en début d'émission, mais moi j'ai perdu son nom là.
C'est et on vient d'écouter Qu'est-ce qu'il faudrait de donc ce double album récent, il est passé par ici. Alors qu'est-ce qu'il faudrait?
Justement, c'est le sujet de la chanson.
Ah, on n'a pas tout écouté.
Pour aller mieux.
On n'est pas assez attentif.
Pour être heureux.
Bah, C'est la question est posée.
On réécoutera la chanson. Mais les auditeurs l'ont sans doute bien écouté. Et si vous voulez, tous les renseignements seront sur le blog avec les spectacles que vous pouvez faire venir chez vous, les publications auxquelles vous pouvez souscrire, et notamment un triple album CD cette fois, un grand coffret. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des livrets de textes très très épais, puisque au cas où vous ne l'auriez pas encore saisi, nous sommes dans la haute poésie et dans la grande chanson française, c'est-à-dire la chanson à texte, mais qui pour cela ne néglige pas non plus la musique, hein, parce qu'il y a un peu des préjugés là-dessus, je m'en aperçois assez souvent. On a parlé de culture anglophone au début, il y a un lieu commun, à mon avis c'est un lieu commun qui veut que la chanson française soit avant tout une chanson à texte et qui soit pauvre musicalement et qui valorise tellement le texte, met tellement en avant le texte que la musique n'apparaît que, on va dire, superflue ou en deçà. Alors c'est vrai que les anglophones et les anglais sont les rois de la mélodie, de la musique, du groove, de tout ce qu'on veut. Mais c'est parfois un procès un peu mal intentionné, je trouve, et un peu injuste à l'égard de la grande chanson française qui allie les deux souvent, la qualité musicale de composition et aussi la qualité des textes. Parce que quand on traduit certaines chansons anglaises qui sont magnifiques, on est un petit peu déçu par la qualité littéraire, il me semble. Qu'en pensez-vous, Philippe ?
Oh, je pense que la chanson anglaise...
Ah non, on va pas reparler, on va se faire des ennemis.
98% des gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, c'est seulement un bruit de fond et un beat. Mm-hmm. C'est tout, donc c'est autre chose, c'est pour faire consommer, c'est tout, et pour abrutir le peuple.
Et on a parlé de Bob Dylan, qui est quand même lui un grand auteur, hein, pour le coup, et puis dans le blues, il y a des paroles extraordinaires.
Mais dont personne n'a jamais compris ce qu'il disait.
Massivement, non, mais les anglophones comprennent Bob Dylan, il n'aurait pas été nobelisé, je pense.
Et encore.
Et Patti Smith écrit des textes très beaux, enfin, il y a aussi des grands poètes de la chanson anglophone et du rock, enfin bref. On va revenir à l'album en trois parties dédié donc au poète Guy Cadou.
René Guy Cadou,
qui est belge, non ?
Non,
français.
René Guy Cadou est né en Bretagne, à Saint-Trène-de-Bretagne, en 1920. Il est mort en 1951, fort jeune. Il a publié vraiment, quasiment à compte d'auteur, quelques poèmes de son vivant, mais c'est à partir de son décès que son épouse, Hélène, et ses amis l'ont fait connaître en réunissant un premier recueil qu'ils ont appelé « Hélène ou le règne végétal », publié par Segers en 1952-53, et à partir de là, le nom de Cadou a circulé, et aujourd'hui, il est un des poètes les plus réédités de la poésie française. Moi, je suis tombé dans Cadou il y a plus de 30 ans, et là, j'ai décidé donc de faire un peu le bilan, et voilà, j'ai fait ce triple album.
Et vous êtes associé, donc je crois qu'il y a un album, le troisième CD, c'est Clara Saussac qui joue du Jean-Sébastien Bach. Alors pourquoi cette...
J'ai associé on l'a dit. Cadou et Jean-Sébastien Bach, parce que je trouve que ça convient à merveille pour ses poèmes. Mmh. Et donc le troisième CD, j'ai mis l'intégralité des pièces que j'avais demandé à Clara de jouer.
La musique seule. Oui. Je me dis là comme ça, c'est bien, on est bien, on discute, et puis je vois l'heure, 14h57. Si jamais Pascal du Blues des Canus se pointe, là on va être bien gêné, parce qu'il faut que nous écoutions d'ailleurs du René Guy Cadou. Donc on va commencer à écouter, et puis je me demande si on pourra écouter jusqu'à la fin, ça n'est pas sûr. Ah, c'est bah oui, c'est une belle conversation, suspense. Mais il faut quand même que les émissions puissent se faire les unes après les autres. On écoute donc extrait de cet album hommage, non, quel titre porte-t-il?
Oui, on va dire, ça s'appelle
Poète René Guy Cadou, mais montrez-moi trace des clous, c'est un extrait d'un poème de Cadou.
Et on écoute Si mes yeux.
Si mes yeux, si mes mains, si ma bouche encore tiède, si la terre et le ciel venaient à me manquer, si le vent n'allait plus porter dans sa nacelle mes oiseaux et la part infime du secret. Si les tiges de blé qui ferment ton visage m'éclairaient plus la route où j'avance à pas lents, si ce poème enfin n'était rien
et non le cri d'un homme en face de sa nuit.
Si mes yeux de Jean-René Guicadou chanté à trois voix a cappella, c'était la même voix de Philippe Forcioli ici présent, donc mixé. C'était beau, c'était beau. Alors c'est quoi ce rapport à la musique? Parce que vous nous avez dit en début d'émission ou hors antenne que vous ne lisiez pas le solfège, c'est pas une approche cérébrale ou intellectuelle ou traditionnelle de la musique, c'est une approche
à l'oreille.
Ouais.
À l'oreille, je dois avoir ça dans le sang.
Au moins.
Oui, parce qu'on évoquait pour ce qui est de la guitare, formation en autodidacte. Enfin, pas de...
Ah oui, sur beaucoup de choses, je suis autodidacte.
Pas de conservatoire, pas de...
En cuisine aussi.
Dès le bac, hein, dès le bac, il était quasiment autodidacte. Et puis le bac à l'époque, c'était difficile. Hein.
Tout de même bachelier.
En plus.
Oui. Auditeur, il est 15h, ce n'est pas le blues des canuts que vous écoutez, mais je suppose que Pascal n'étant pas encore là, allez, on se permet de déborder légèrement. Et puis Gérald, je ne sais pas si tu le pensais, enfin, est-ce que je me veux télépathe? Non, y aurait-il un peu de blues chez notre invité Philippe Forcioli? Est-ce qu'il y a une manière...
J'aime bien
manière de...
le blues.
Ah, bon, il n'y a peut-être pas du blues, mais vous aimez le blues, alors ça peut...
Oui, ah oui. Le blues, vraiment, du tout début, quoi.
Ah
bah,
des campagnes.
Des campagnes avec des instruments acoustiques. Dès que ça passe à l'électrique, ça m'ennuie un peu. Mais les voix de certains blues...
Robert Johnson.
J'ai pas de nom. Je sais que ma fille m'avait passé tout un documentaire où il y a au moins une quarantaine de vieux noirs qui chantent.
De Scorsese,
incroyable.
Le film de Scorsese,
ah, c'est un film de...
Il me semble.
Formidable.
Ouais.
Ah ouais, j'adore ça.
Puis... Pascal passe de tout hein, dans le blues des canuts qui n'a pas lieu maintenant. Vous n'écoutez pas le générique, il est bon hein, ce générique Neuilly Blues, c'est ça
oui.
Vous écoutez donc bien la fin de Spectaculaire. Nous sommes toujours avec Philippe Forcioli et nous parlons de cet album de René Guicadou et nous parlons également de diverses choses. Donc ce documentaire vous a beaucoup plu pour ce qui est du blues en
sur
général.
Sur la musique blues et puis sur la plupart des musiques traditionnelles, je dirais, que j'aime. Enfin, je connais pas tout, mais...
Y compris la musique corse. Le chant corse.
Le chant corse, il y a de belles choses, bien sûr. Bien sûr. C'est une façon différente de chanter. On chante pas en français de la même façon. La langue française demande de la retenue, de la... je vais dire... je sais pas si on est en studio, mais... Sur une note, on va dire... bonjour, par exemple. En Corse, on va pas le dire ça, on va le mettre de la gorge. Bon, c'est tout de suite, c'est autre chose. C'est une autre façon de chanter. Donc, c'est d'autres mots, c'est d'autres choses qui sont dites et qui sont proches, je dirais, oui, du blues. On est plus proche du blues avec une padielle corse qu'avec une chanson de Brassens ou autre.
Mais alors, quel Corse, le Corse du Nord ou le Corse du Sud? Parce que, par exemple,
je suis du Sud, donc... Alors...
Le vocabulaire est différent. Hein. Le mot « âne » ne se prononce pas pareil selon que l'on soit non. Bonifacio ou bien...
C'est sûr. Non.
C'est quoi déjà ce mot « âne » alors? Au Nord, c'est...
Au Nord, sous-mer. Et chez nous, « sameru ». « Sameru ». Et puis, même à certaines, on va dire « asinu ». Donc il y a plusieurs façons de se dire.
Plusieurs patois.
À propos d'âne, hein, je recommande vivement aussi d'écouter de l'âne aux chants énamourés. Il y a des albums concepts qui sortent parfois un peu étranges, bizarres, sur des concepts bizarres. Mais cet album concept sur l'âne, c'était quand même quelque chose d'unique au monde. Avec un tube qu'on a mis en ligne sur le blog d'ailleurs.
Pour annoncer
une chanson a cappella merveilleuse que j'adore, qui plaira à vos enfants et à vos grands-parents.
À tout le monde, de 7 à 77 ans, avant et après, c'est très fort.
Pour finir, si vous voulez bien, je dirais que c'est l'objectif de la poésie, d'être intemporel et d'être valable pour tous et toutes en tout temps.
Universel et intemporel ou atemporel.
C'est le but à atteindre pour un poète et finalement d'être anonyme. d'être à tout le monde.
La boucle est bouclée.
Voilà.
Mince, comment parler d'opéra? Bon, bah écoutez, auditeurs, il y a un opéra qui a lieu, Electra. Nous irons le voir, Gérald et moi, on en fera un compte-rendu. Il aura lieu demain, jeudi 30 mars. Il aura également lieu...
Richard Strauss.
Samedi, exactement, samedi 1er avril.
Vous
et puis
souffrir, hein.
dimanche
non,
2...
On verra, vous le dira, peut-être bientôt.
Dimanche 2, ce sera la dernière de Tristan und Isolde. C'est un magnifique opéra de Richard Wagner. Et là, la mise en scène est assez formidable. À propos de chant, il y a des polyphonies bulgares. À l'opéra, mais alors non pas la scène principale, c'est un peu dessous à l'amphithéâtre. À 20h30, vendredi 31 mars, à l'amphithéâtre, des polyphonies bulgares. J'essaierai de mettre un article sur le blog, une entrée. Le bulgare, vous parle,
ou les polyphonies
en général?
Quand on a découvert en France le chœur des femmes bulgares, c'était extraordinaire, on n'avait jamais entendu ça. C'est une façon de chanter qui nous est inaccessible pour nous, avec notre oreille très 6-8.
Alors, merci ces femmes bulgares d'avoir davantage tiré de mots à Philippe Forsoli qui voulait en rester à cette très belle et très intelligente et très éclairante réflexion sur le poète. C'est dommage, on a ajouté trop de mots après ça. C'est terrible. Générique de fin, auditeur. Je crois qu'on n'a pas tout dit, mais on en a quand même beaucoup dit, Gérald.
Oui, grand merci à Philippe Forsoli.
Allez, je vous remercie.
Notre invitation.
Bon printemps.
Et il revient quand il veut, parce qu'on réinvite nos invités souvent, et vous revenez pour la.
Ouais, mais alors il faut qu'il repasse à Lyon, parce que là, l'actualité, c'est Lyon ces jours-ci.
Faites-moi avec votre guitare pour chanter en direct, ça serait
toi, tu le souhaites, Gérald.
Ah. Ça serait bien, ça.
Donc Lyon ces jours-ci, sinon, il y a également une souscription, et puis de toute façon,
tout en lien.
On peut se retrouver sur le blog, voilà. Vous serez.
D'accord.
Savez-vous, la semaine prochaine, où serez-vous? Vous le savez déjà?
Samedi, il faut que je joue à Barjac, samedi.
Bon, très bien. Auditeur, restez à l'écoute. Peut-être que le blues des canuts va avoir lieu dans quelques instants, on n'en sait pas plus. Méga Combi, c'est prévu à 19h, à 18h, 19h sera le Canu Info, et à 17h on n'arrête pas le prog, voilà, je crois que j'ai tout dit, donc sortez, il fait très beau ces jours-ci, allez voir des concerts d'appartement, c'est intéressant, allez voir Electra si vous le souhaitez également, enfin bref, écoutez Radio Canu aussi, c'est très important, Radio Dragon si vous êtes dans le sud de l'Isère. Bonne journée à vous, à très bientôt,
à la semaine
salut
prochaine.
Tout le monde, à la semaine prochaine. On verra l'invité, on verra qui ce sera. Ciao tout le monde.